Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur le 101.5 FM sur Radio G ou bien même sur le site internet www.radio-g.fr et tout de suite vous l'avez reconnu grâce au ton de ma voix, c'est l'heure de Génération Sport. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du 101.5 FM. On est ensemble pendant près d'une heure pour parler du sport à Angers. On est en compagnie donc de l'équipe entière de Génération Sport puisque Cédric et Max sont ici présents dans les studios. Max est à la régie aujourd'hui. Salut Max.
Bonsoir Alex, bonsoir à tous les auditeurs de Radio G.
Et salut Cédric.
Salut tout le monde. La situation est grave.
La situation est grave, on va en reparler. On a eu un très très gros week-end de sport à Angers avec des très bons résultats en basket, un nul plutôt satisfaisant en foot et des matchs plus compliqués en hockey et en balle et on va en reparler. Aujourd'hui, c'est une émission en partenariat et donc une émission spéciale La Dalle Angevine. Théo n'a pas pu venir aujourd'hui, mais c'est pas grave puisqu'il y a un Dalleux qui est avec nous aujourd'hui, c'est Simon Revaux. Salut Simon, comment
c'est
ça,
ça
va?
Bonsoir à vous, merci pour l'invitation.
Après avoir parlé des actus locales, on fera donc l'interview pour parler de toutes les actus autour de La Dalle Angevine et notamment voilà des articles qui vont sortir et qui sont sortis quotidiennement donc sur le site de La Dalle Angevine. On va donc structurer l'émission de la manière suivante. D'abord, on va parler des actus locales. Pas vraiment une deux, on va avoir une petite discussion sur tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment pour nos clubs partenaires. Et puis après, donc, comme je le disais, interview de La Dalle Angevine. Et en fin d'émission, si on a le temps, on parlera un peu des actus internationales avec, pourquoi pas, un peu de football, de Formule 1 et un petit mot de tennis. On va donc commencer les actus locales avec, si vous voulez bien, le basket. Ce week-end est à marquer d'une pierre blanche puisque les trois équipes professionnelles du Maine-et-Loire ont toutes gagné et qui plus est dans des matchs importants. On commence évidemment avec l'EAB qui s'est offert le titre de National 1 ce vendredi. Les joueurs de Sylvain Delorme ont décroché leur promotion en Pro B grâce à la défaite de Poitiers à Caen. À la base, c'était aux Angevins de s'imposer sur le terrain du Havre pour remporter ce titre, mais la partie ne tourna pas en leur avantage et c'est finalement grâce à la victoire imprévu de Caen contre Poitiers que les portes de la Pro B se sont ouvertes pour le club angevin. Messieurs, c'est le résultat de plusieurs années de travail. Voilà, on sait qu'on côtoie pas mal de joueurs de l'EAB depuis plusieurs années. Et puis voilà, ça faisait des années qu'ils en parlaient de cette montée en Pro B. Ils n'avaient pas pu en 2020, mais ça y est, c'est fait. Et c'est une grande satisfaction pour tous les supporters de l'EAB.
Ouais, et c'est surtout aussi une très bonne nouvelle pour le sport angevin. C'est vrai qu'on a plusieurs clubs qui sont dans des très très grosses divisions. Et là maintenant, l'EAB qui a atteint la Pro B, c'est super. Justement, on se posait la question avec Cédric tout à l'heure. Est-ce que tu sais la dernière fois où justement l'EAB a joué la Pro B?
À l'époque, c'était l'ABC.
C'était l'ABC.
Voilà, ça. Et c'était en 2014-2015. Ils avaient été donc relégués. Et depuis, donc, en 2007, le club de l'Étoile Angers Basket s'est créé. Une fusion avec l'Étoile d'Or Saint-Léonard et l'ABC. Et donc, voilà, ça a donné l'EAB. Et donc, aujourd'hui, ils reviennent en Pro B au meilleur niveau.
Et c'est super, comme ça, la saison prochaine, Génération pourra suivre justement cette saison.
Bien sûr.
En Pro B.
Cette saison de promu. Toi, Cédric, qui avait suivi il y a quelques temps.
Qui avait connu l'ABC.
C'est ça, justement, en Pro B.
En Pro B, ouais. À l'époque, c'était compliqué quand même pour le club, mais ça permettait d'avoir quelques pépites qui arrivaient de l'étranger, notamment des joueurs américains, des choses comme ça. C'est vrai que c'était intéressant, en tout cas pour l'effectif du club. À l'époque, il n'y avait pas forcément un grand engouement, je trouve, pour le basket en règle générale sur la région. Là, depuis un moment, c'est vrai que ça s'est développé, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc, une saison en Pro B sous une nouvelle écurie, ça peut faire que du bien. Je pense à l'histoire du club. Pareil, attention, hein, c'est toujours compliqué le changement de cap. Mm-hmm. Faut voir aussi qui va descendre. Mm-hmm. Ça peut y jouer aussi. Voir qui va être dans le ventre mou aussi de la Pro B, qui sera revanchard. Donc, pas forcément la saison la plus évidente qui va arriver pour l'étoile, mais après tout, quand on voit le parcours de l'UFAB, pareil, en début de saison, on avait dit attention, ça peut être compliqué la première saison. Et pour l'instant, ça se passe si on tenait un bilan, je pense que c'est quand même au-dessus des espérances de ce que le club pouvait espérer, quoi.
Ouais, du coup, ce soir, il y a un match de l'EAB, c'est le dernier à domicile de la saison. Les Angevins qui peuvent rester invaincus à domicile cette saison s'ils battent Caen ce soir. Caen qu'il aura d'ailleurs offert le titre. Et donc, voilà, il y a un gros dispositif autour. Il y a eu des billets qui s'arrachaient à la billetterie. Et je crois qu'il y a même eu des gradins qui ont été rajoutés en plus pour qu'il y ait 3000 spectateurs. Donc, ça va être quelque chose d'assez important. Toi, Simon, quel est ton sentiment par rapport à ça, par rapport à l'étoile?
C'est vrai que l'étoile est sur une bonne dynamique cette saison et il faut vraiment continuer sur cette dynamique là ce soir face à Caen et peut-être pourquoi pas aller chercher la première place encore en fin de saison.
Voilà, la garder même si elle est déjà assurée. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'EAB, cette folle soirée qui les attend donc du côté de Jean-Bouin. On va partir.
Dis-moi. T'as un horaire de début de match pour.
Je crois que ça commence à 20h. Je crois que ça a déjà commencé.
D'accord, donc on essayera de le couvrir. On l'a fait la dernière fois.
Si on peut avoir,
en live réac.
En direct, exactement. On va partir maintenant du côté de la LFB. La défaite d'il y a deux semaines de l'UFAP 49 contre La Roche mettait les joueuses de David Gauthier en position assez délicate avant la fin de saison régulière. Pour continuer à croire aux playoffs, il fallait s'imposer sur le terrain de Charleville-Mézières, 4e du championnat, au terme d'un match disputé de bout en bout avec plusieurs cartons terminés à égalité. La décision s'est finalement faite en prolongation et ce sont les Angevines qui sont sorties vainqueurs de ce combat de longue haleine, 84 à 76. À 3 journées de la fin, ça sent bon les playoffs donc pour l'EAB, pour l'UFAB, pardon, qui possède désormais 2 victoires d'avance sur Saint-Amand qui est 9e au classement. Messieurs, je me retourne vers vous. Les playoffs, ça se rapproche vraiment pour les filles de l'UFAB. Vous sentez comment là, cette fin de saison?
Ce serait que bénéfique, du plus. Elles vont prendre de l'expérience si elles jouent les playoffs.
Et pourquoi pas une qualification européenne, ça peut être aussi important.
Ce serait bien pour le club, mais après derrière, ce serait peut-être compliqué pour la saison d'après.
Ouais, au niveau du calendrier, ça peut être...
On leur souhaite, mais ça voudrait dire renforcer l'effectif un peu plus pour la saison d'après. Peut-être du coup au détriment peut-être de la formation interne au club. Mine de rien, on peut saluer ça. Tout au long de la saison, il y a eu des joueuses du niveau inférieur qu'on jouait en équipe principale. Donc, on peut leur souhaiter, effectivement. Mais ce serait, je pense, très, très compliqué.
On verra ça. Max, tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, non. Bah, comme Cédric, toutes les joueuses qu'on a reçues au cours de la saison, leur objectif c'était ça, c'était de se maintenir. Là, elles vont faire les playoffs. Ça va être que du bonus. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'objectif alors évidemment d'aller le plus loin possible, comme toute équipe qui les font. Mais il n'y a pas un objectif de victoire. Là, l'objectif global de la saison est rempli. Donc ouais, ce sera que du bonus.
D'ailleurs, un petit mot sur l'EAB qui perd actuellement 22 à 10 contre Caen. Mais voilà, ça a commencé depuis 5 petites minutes. On va partir sur un dernier mot au niveau de Cholet Basket. Samedi après-midi, il y avait un derby des Mauges contre Le Mans. Et ce sont donc les Choletèques qui l'ont emporté 80 à 67. Les Choletèques qui sont d'ailleurs à 2 victoires des playoffs. Mais bon, leur calendrier de fin de saison pourrait s'avérer assez compliqué puisqu'ils devront affronter l'ensemble du top 4 de la phase régulière. Donc voilà, affaire à suivre.
On va parler de football maintenant avec le SCO. Les Angevins qui jouaient ce week-end, c'était à la maison au stade Raymond Coppa dimanche dernier face à Lille. Et les Angevins ont arraché un petit point face à cette équipe lilloise. Score final 1 partout. Si on regarde les buteurs, c'est un contre son camp de Diallo pour donc le but angevin. Et je vais pas me risquer à prononcer le nom du buteur lillois sous peine de prendre une amende, évidemment. Tu veux t'essayer, Alex?
Bah, Zegrova, non?
Ouais, bah, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais.
Je pense que c'est Zegrova.
Bon, on retiendra que Zegrova a marqué le but égalisateur pour Lille. Et du coup, au classement, eh bien, le SCO est 14e avec 33 points. Et le barragiste qui est Saint-Etienne a 6 points de retard sur le SCO. Donc, c'était pas un match où on espérait vraiment gratter un point. C'est chose faite. Donc, tant mieux pour la fin de saison des Angevins. On espère qu'ils vont réussir à se donner un peu d'air avec ce match nul. Sachant que le calendrier... Alors le calendrier est assez clément, je trouve, puisqu'on affrontera notamment Clermont, Bordeaux qui sont dans une mauvaise passe, Metz aussi qui est en fin de tableau. Mais les prochains matchs, ce seront face à Nantes et après on recevra le Paris Saint-Germain. Donc là aussi, ça risque d'être compliqué.
T'appelles ça un calendrier que... avantageux?
Alors avantageux, non, mais je pense qu'il aurait pu avoir pire puisque on joue Clermont, Bordeaux et Metz qui sont en fin de classement.
Quand tu regardes l'écart de points, c'est pas forcément la meilleure solution de les jouer maintenant.
Bah après, ça va être trois matchs décisifs.
Oui, bien sûr.
Donc, ça va être les matchs les plus importants de leur saison.
On voit que le SCO sur les derniers matchs dit décisif.
Ouais. Mais il vaut mieux qu'ils jouent Bordeaux et Metz que Marseille, Lyon, Paris, Monaco, Lille et tout le tralala du haut de classement. Donc, je pense qu'on espère en tout cas que le SCO va réussir à faire la différence dans ce match-là pour se maintenir, ce qui devrait, on l'espère, pas trop poser de problèmes.
En tout cas, il y a un vrai mieux depuis. Depuis quelques matchs, il y a eu quand même un match disputé contre Lyon. Il y a eu la victoire juste avant contre Brest. Voilà, ils sont sur une nouvelle bonne phase. Voilà, il y a Mandrea dans les buts qui fait un bon boulot. Et voilà. Toi, du coup, Simon, au niveau du SCO, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est vrai que c'était compliqué la série de défaites qu'on a eue là de plusieurs matchs, mais c'est vrai qu'on s'est repris contre Brest, il y a eu un changement de gardien, il y a eu un match à disputer à Lyon, comme tu l'as dit, et je pense vraiment que ça peut redonner une nouvelle image, une nouvelle dynamique à l'équipe, et on espère aller chercher le maintien en fin de saison, parce que c'est tout ce qui compte.
Et oui, on espère, et on suivra ça évidemment de près dans Génération Sport.
En tout cas, on peut juste faire une remarque, c'est quand même la faute professionnelle de Saint-Etienne ce week-end vis-à-vis de la lutte pour le...
Qui en encaisse 6 à Lorient.
Qui s'en prend 6 alors qu'il menait 2-0.
Ouais. C'était, ouais.
Ça doit être... c'est vrai que du coup, ça donne un peu de...
Ça donne un peu d'air.
D'air pour le SCO, mais triste pour... Enfin, les Stéphanois en sont rendus à ce point-là, quoi, de lâcher limite un match alors qu'ils ont tout pour le tenir, quoi.
Avant de passer sur les Ducs, un petit mot du SCO Handball qui a connu ce vendredi sa 19e défaite de la saison en déplacement à Cherbourg 35-34. Alors, ne vous me prenez pas quant à ce score serré. Il s'agit davantage d'une folle remontée pour recoller que d'un véritable bras de fer, puisque les Angevins ont été menés de 10 points juste avant la pause, dans un week-end où Ivry a officialisé son accession à la Leaky Molly Star League. Le SCO a probablement, quant à lui, dit adieu à ses dernières chances de rester en deuxième division. Avec 7 points de retard sur Valence, le premier non relégable, ce sera désormais un miracle si le SCO parvenait à ne pas descendre à l'étage inférieur. Pour rester mathématiquement en vie, Angers devra battre justement Valence à Jambouin. Sinon, l'espoir d'un maintien sera définitivement enterré.
On va passer maintenant.
Ce serait pas mieux pour eux au vu des deux saisons qui ont été un peu, voire catastrophiques, ce niveau-là, de redescendre et.
Pour l'investissement de Chaban, je pense pas que ça soit une bonne solution.
Ouais,
après, pour le groupe, pour le club en général, oui, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être mieux de se reconstruire.
Après, mais au final, il a investi, mais bon, ça n'a pas changé la.
Ça n'a pas marché, ouais.
C'est pour ça, peut-être que, c'est. Peut-être le meilleur move à faire, c'est de, d'aller rejouer en dessous, se reconstruire et de rebâtir une équipe plus forte.
On verra ça.
Comme tu l'as dit, Alex, on va parler des Ducs. Depuis mardi dernier, les Ducs jouent la finale de la Ligue Magnus. Il y a eu 4 matchs donc face à Grenoble. Ça n'a pas très bien commencé puisque les Ducs ont perdu d'abord 5-2 en terre grenobloise. Ils se sont vite rattrapés. C'était mercredi dernier avec une victoire 3-1. Et puis, on va en parler, les gars. Ces deux derniers matchs des Ducs qui sont cruels puisque samedi dernier, victoire 5-4 de Grenoble et dimanche dernier, victoire 3-2 de Grenoble avec à chaque fois des prolongations, si je ne me trompe pas.
C'est plus que
plus il y a eu les tirs au but.
On a été au tir au but. Ouais.
Les deux fois en plus.
Les deux fois, les deux jours d'affilée. Fin.
Et il me semble, je crois que samedi, les Ducs étaient menés 4-1 ou quelque chose comme ça.
Ils sont menés
3-1 et on remonte à
4-3-0. Ouais. Et ils remontent dans le deuxième tiers pour passer devant. Et ils se font reprendre dans le troisième, pas grand chose, quoi.
Et donc, ce qui signifie que Grenoble mène dans cette finale 3-1, et en cas de victoire, Grenoble remporterait cette finale des playoffs. Et le prochain match, ce sera pas ce soir, ce sera demain, toujours à Grenoble, à 20h30, et on l'espère une victoire des Ducs pour.
De toute façon, c'est pour les Ducs, c'est victoire impératif hein, pour, ouais. Pour jouer au moins
le dernier match à domicile.
Le dernier match à domicile, et au pire, voilà, perdre à domicile et en conclure sur cette saison ou aller chercher la remontada. Mais
ce serait beau.
Il y a moyen parce que, ouais, franchement, les deux matchs à domicile, ça joue vraiment pas grand chose. Et sur l'ensemble des matchs, il y a vraiment des soucis d'entame de match.
Ouais.
On n'arrive pas à rentrer forcément dedans. Après, pareil, hein, c'est Grenoble. Donc on sait à quoi s'attendre. Ils sont solides. Eux aussi, ils ont quand même des petites faiblesses à gérer le match. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, ils sont quand même assez bien armés et bien supérieurs. Mais on l'a vu hein, au tour suivant précédent. C'était mal engagé. Il y a eu ce déclic à l'extérieur. Puis on a vu ce que ça a donné. Donc... Ouais. L'espoir est encore là pour demain, mais ça va être compliqué, ça va sûrement bien bouger aussi.
Moi j'avais vu un article avec les réactions notamment des deux équipes, un article de Ouest France qui disait que en gros la nouvelle formule justement des tirs au but, parce que du coup là ça concerne vraiment cette finale où il y a eu deux fois les tirs au but. Les deux équipes se plaignent beaucoup de cette nouvelle formule, notamment parce que avant apparemment il y avait le but en or. Donc c'est peut-être ça aussi qui est à redire sur cette finale de Ligue Magnus.
Bah, l'entraîneur de Grenoble,
même lui, ouais.
dès le match de samedi en conférence de presse en parlait, en disant que lui personnellement, il comprenait pas déjà qu'on joue à 3 contre 3 les prolongations.
Oui, en plus, ouais, on doit jouer à 3 contre 3.
Et qu'ensuite lui, ça le dérangeait pas que ce soit au but en or.
Ouais, c'est ça.
Après, apparemment, si ça a été fait, c'était pour justement donner un peu plus d'attrait à ces prolongations.
Mais au final.
Et après, jouer les pénaux. C'est vrai que les pénaux, c'est encore plus compliqué qu'au foot.
C'est la loterie un peu.
Ça peut rentrer très facilement, comme ça peut être contré.
Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pas un pénalty arrêté, quoi.
C'est un départ arrêté, en fait. Et voilà, il faut trouver l'ouverture sur le gardien. Donc.
Pas facile.
Mais en tout cas, en termes de scénario à suspense, c'est vrai que ça apporte quand même quelque chose. Hein.
Ouais. Et on suivra ça de près, évidemment, dans les prochaines semaines.
Parce que j'ai vu ça juste avant l'émission. Il y a aussi l'équipe des U15 qui va jouer un quart de finale ce week-end, donc le samedi, le dimanche, et apparemment, il y a un match aussi lundi. C'est des matchs qui sont en accès gratuit à l'Ice Park. Donc, les gens qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller voir les Ducs en temps normal, mais qui aimeraient voir un peu la structure de l'Ice Park et puis voir du hockey, faut pas hésiter à y aller.
Ouais.
Pour avoir vu des matchs des plus jeunes, souvent ça bouge bien. Enfin, y a aussi du bon niveau. Quoi.
Eh bien, on vous recommande d'y aller. Et puis on a fait le tour, je crois, de l'actu locale. On sera de retour donc juste après la pause musicale pour parler de la Dalle Angevine. Max, qu'est-ce que tu vas nous faire écouter ?
Eh bien, avant de parler de la Dalle Angevine, Alex, on va écouter une musique de Post Malone avec son White Iverson.
Saucin' on you. I'm swaggin', oh. I'm ballin', I've a song on you. Watch out, yeah. I smash out,
some hoes. Started rocking the sleeve, I can't buy with no jaws. You know how I do it, can close on my toes. Ooh. I ain't rich yet, but you know I ain't broke. So if I see it, I like it, buy that from the start. I'm with some white girls and they love them to coca. Like they OT, double OT, like I'm KD, smoking OG. And you know me, my 2-3s and my gold teeth. Bitch, I'm smiling, bitch, you see me from the nosebleed. I'm the new 3 and I change out to my new D. Why'd I have a song? When I started balling, I was young. You won't think about me when I'm gone. I need that money. In my hair, man. Slummed over like a deer, man. Red and black, but my bread, man. I'm the answer, never question. Lace up, learn a lesson. Bitch, I'm saucing. I do this often. Don't do no talking. My options, right when I walk in. Jump on them Jordans, I'm ballin'. Money jumping, like I'm Davis from New Orleans. Oh, bitch, I'm hardin'. I don't miss nothing. For practice, this shit just happens. No, y'all can't. I wear my magic, high average, ball on these bastards. It makes me happy, it's tragic. I make it happen in all your shacking. Why'd I have a song? When I started balling, I was young. You won't think about me when I'm gone. I need that money like the ring I never won. I want saucing, saucing, saucing on you. I'm swaggin', oh, I'm ballin', I have a song on you. Watch out, oh, watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah. I'm spendin' on my fucking pay.
Retour dans Génération Sport pour la suite de l'émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur www.radio-g.fr. On est de retour avec Simon Revaux de la Dallangevine. Donc dans un premier temps, avant de parler de tout ce qui se passe autour de la dalle ces derniers temps, est-ce que tu peux un peu te présenter et puis et nous expliquer quel est ton rôle au sein de la Dallangevine?
Alors je m'appelle Simon Revaux et je suis membre de la Dallangevine du coup depuis septembre-novembre 2021. Et je suis actuellement aussi étudiant à l'UCO, à l'Université catholique de l'Ouest, en licence information communication. Et on m'a mis en contact avec la Dallangevine par un ami de mes parents. Et j'ai tout de suite adoré le projet finalement. Et ça pouvait être que du bénéfice pour mon projet aussi professionnel vers l'avenir.
Ok, et parce que du coup t'es en L combien?
Je suis en licence 1, en première année.
Ok, première année. Nous on est à Max, on est en L4. Puisque on n'est plus à la cato. Mais en tout cas, on a eu le diplôme l'année dernière. Voilà, pour la petite anecdote.
On attend toujours le champagne d'ailleurs.
Et on attend toujours le diplôme, puisqu'on l'a même pas.
On l'a pas reçu encore.
On sera peut-être. Voilà, si un prof nous écoute.
C'est ça. On sera peut-être de retour à l'UCO dans quelques temps. Oui, donc tu disais, là, tu entends que c'est une activité bénévole à la Dallangevine.
Ouais, c'est ça. C'est que du bénévolat et c'est vraiment, ça peut apporter plein de qualités essentielles, hein, puisque moi je vais faire journaliste sportif vers l'avenir. Et donc écrire des articles, se rendre sur place, également faire des interviews, c'est vraiment plein de connaissances qui peuvent m'être acquises et c'est génial juste.
Du coup, donc tu écris quelques articles sur le site de la Dalle Angevine. Est-ce que tu peux nous raconter certaines de tes expériences, quels articles tu as pu faire déjà depuis le début de la saison?
Par exemple, j'ai pu être invité à un gala de boxe de Georges Tinohori, boxeur angevin. Et donc c'était vraiment une super expérience parce que il y a eu plusieurs combats amateurs et professionnels. Et j'ai vraiment pu donc accéder en loge et j'ai pu prendre des notes. Et en fait, j'ai vraiment pu vraiment comprendre à se rendre sur place, après débriefer individuellement et ensuite écrire mes articles à la maison. Et c'est vraiment une super expérience, hein, c'est génial.
Et du coup, donc toi, tu disais, t'es rentré dans l'assaut avec des contacts, mais de façon générale, comment ils font les bénévoles pour rejoindre la Dalle Angevine?
Ah bah, je pense qu'on peut contacter par mail, en donnant un peu ses motivations, peut-être son CV, une lettre de motivation éventuellement. Et puis, c'est vraiment une association qui est familiale, qui est bonne ambiance, et on peut s'intégrer très facilement.
Du coup, comment ça se passe dans la rédaction de la Dalle Angevine? On t'envoie direct ou est-ce que tu proposes tes sujets?
Alors, on peut proposer les sujets. Il y a Théo, du coup, qui s'occupe de toute la partie un peu organisation.
Okay.
Il y a un calendrier avec plusieurs dates et événements. Et on peut, du coup, dire j'aimerais bien aller à cet événement-là. Théo s'occupe de nous donner les places. Par exemple, on peut demander à aller voir les Ducs à l'Ice Park et il peut nous envoyer deux places. Comme ça, on peut y aller avec un pote en plus et c'est vraiment bien.
Vas-y. Je regardais pour préparer l'émission. Là, il y a récemment différents articles que tu as signés qui sont complètement à l'opposé. Il y en a un que tu as fait sur le football féminin.
Ouais,
il y en a un qui a été fait aussi plus sur les salles de sport.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment.
C'est varié.
Il y a plusieurs rubriques sur le site et on peut vraiment faire des articles différents. Il y a par exemple la rubrique Made in Angers, Made in 49, pardon, qui vraiment s'intéresse à des sportifs qui sont devenus professionnels mais qui sont angevins ou qui sont partis de clubs angevins. On a aussi la rubrique Les Indispensables, donc ça c'est vraiment sur les personnes un peu de l'ombre, travers de l'ombre, qu'on n'en parle pas forcément, ils sont un peu dans l'ombre justement.
Ouais.
Et c'est vraiment intéressant, on a plusieurs rubriques comme ça qui parlent de différents événements.
Ouais, ce week-end, je crois que j'ai vu passer, il y avait un article sur justement le football féminin. Avec les deux équipes qui jouent en R1 sur Angers. Justement, tu parlais de ceux qui sont made in Angers. Je crois avoir vu un truc sur le média de basket Trash Talk. Ça, c'était il y a un petit moment maintenant. Là, récemment, c'était sur le rugby. Il y avait un.
Et Paul Boudon.
C'est ça qui est un rugbyman de La Rochelle. La Rochelle qui est quand même un gros club et qui est formé, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas qui vient du SCO rugby.
Ouais.
C'est assez intéressant d'avoir plusieurs aspects parce que c'est vrai que nous, on a ici à Régien Sport, on a l'aspect vraiment professionnel avec les clubs professionnels d'Angers, mais c'est important aussi d'avoir les clubs à la fois les clubs amateurs, les personnalités aussi, parce que voilà, c'est aussi des angevins et des angevines individuels qui performent, et puis comme tu le disais, les hommes de l'ombre qui agissent. Du coup, au niveau du sport angevin, l'année qui vient de s'écouler, elle est, on va dire, plutôt bonne. On en a parlé un peu avant, mais toi, comment tu la considères? Il y a eu quand même beaucoup d'événements angevins pour le sport.
Ben, c'est vrai que il y a vraiment une mobilisation autour du sport angevin ces derniers temps. Et vraiment, la Dalle, ouais, essaie vraiment de mettre l'accent sur ça. On essaie vraiment aussi d'aborder plusieurs thèmes, donc amateurs, professionnels. On essaie aussi d'aider les jeunes athlètes avec des partenariats sur le plan financier, où on essaie aussi de transmettre des valeurs qui peuvent être essentielles aussi, par exemple l'exemplarité, l'humilité, tout ça. Et c'est vraiment de porter vers le haut le sport angevin. On est vraiment là pour soutenir toutes les personnes, en fait.
Il y a également un autre aspect sur les articles qui est intéressant, c'est parce qu'il y a un partenariat avec le média Résonance. C'est justement en partenariat avec Luco d'Angers, avec cette fois les L3 Infocom Option Journalisme qui proposent des articles qui sont parus à la fois sur Résonance et à la fois sur la Dalle Angevine. Il y a certains articles qui ont commencé à sortir. Toi, est-ce que il y a quelques articles, enfin, est-ce que tu peux parler de seulement justement à ces articles-là?
Alors, ouais, j'en suis pas encore là, je suis en L1, mais c'est vrai que la L3, ils ont une superbe opportunité avec la DAL et avec Luco, il y a vraiment un partenariat qui se met entre eux. Et c'est une super opportunité d'écrire des articles comme ça parce que ça permet d'écrire des connaissances et de l'expérience pour un futur métier de journaliste, pourquoi pas.
Il y a du coup, moi j'ai regardé un peu, il y a un reportage sur les gardiens donc, qui est donc fait aussi par la DAL Angevine qui est hyper intéressant parce que du coup ça prend trois sports différents. Donc il y a une gardienne, la gardienne de la Croix-Blanche, il y a le gardien des Ducs. Et il y a le gardien du Squamball, et donc voilà, ils sont réunis tous les trois et ils parlent donc de leur métier de gardien. Les entraîneurs de gardiens d'ailleurs sont aussi interviewés, donc c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir, chers auditeurs, donc ces différents articles donc sortis avec donc la DAL et le média Résonance. Max, tu connais aussi un petit peu le média Résonance, on y était l'année dernière. C'est une belle opportunité hein, en tout cas pour les étudiants de pratiquer un peu le journalisme.
Ouais, et même au-delà de la DAL Angevine, hein, c'est donc je sais pas si on va le repréciser, c'est le projet de fin d'études.
C'est ça.
En licence 3 information communication parcours journalisme multimédia et réseaux sociaux à la Cato, et donc pour valider cette licence, en fait, il y a un projet de fin d'études à réaliser. Ça peut être sur des termes très divers et variés, et donc la DAL Angevine dans ce cadre d'études a un partenariat avec la Cato, et comme tu l'as dit, tu peux faire des articles ou des reportages, des enquêtes autour du sport. Et donc oui, c'est une super opportunité pour les jeunes qui veulent parler de sport, qui comme Simon veulent pourquoi pas s'orienter vers du journalisme sportif. C'est une super opportunité, et même en général pour se tourner vers le journalisme, ça permet au moins de voilà d'avoir une création personnelle qui peut être un premier pas vers une carrière de journaliste.
Et parce que c'est ça aussi la DAL Angevine, c'est vraiment promouvoir le sport angevin dans tous ses aspects, et donc pourquoi pas promouvoir des jeunes journalistes sportifs, en tout cas aspirant à devenir un journaliste sportif. Toi, comment tu vois, t'en as un petit peu parlé avant, mais comment tu vois vraiment cette opportunité d'un point de vue journalistique, même si c'est que bénévole, comment tu vois ça?
C'est vraiment une véritable aubaine, hein, parce que dès qu'on m'a proposé ça, j'ai vraiment accepté tout de suite et j'ai foncé, parce que vraiment c'est génial. On peut avoir une véritable opportunité d'écrire des articles, de les publier, que des lecteurs lisent nos articles, et c'est génial. On peut apprendre à mettre la mise en page, on apprend aussi la manière d'écrire, parce que il y a une manière d'écrire en journalisme, et c'est vraiment, il y a plein de qualités et de connaissances qu'on peut acquérir à travers ça.
Il y a des gens la DAL qui t'aide un peu justement pour écrire tes articles.
Ouais, c'est ça. Alors que moi, quand j'ai écrit mes articles, je me suis rendu sur place, je les ai écrits individuellement, et après je les ai envoyés donc à la DAL, et après il y a des gens, donc Théo en fait partie, qui m'aident à mettre en place les articles et à les publier.
En fait, ça fonctionne un peu comme un rôle de correspondant sportif, que ce soit à Ouest France ou au Courrier de l'Ouest. Alex et moi, pour avoir été correspondant sportif là-bas, tu vas voir les matchs, tu fais les articles chez toi, et après tu envoies. La seule différence, c'est que ça, c'est une activité rémunérée, ce qui n'est pas le cas de la DAL, mais on le sait tous que dans le journalisme, la paye est loin d'être la chose qui passionne, puisque quand on est jeune et qu'on aime le sport, faire des articles pour le sport, soit pour la DAL ou pour d'autres canards, finalement c'est ce qui plaît le plus.
Si on avait été intéressé que par l'argent, on serait peut-être pas à la radio aujourd'hui.
C'est vrai. Et on serait peut-être pas bénévole.
C'est ça.
Parce que vous êtes pas payé?
Non, on n'est pas payé. Alors, pas pour Génération Sport. On aimerait bien. On n'est pas payé.
Je vous donnerai la combine. Ça fait 6 ans que je suis sous les trucs.
Ah, d'accord. Ok, super.
On touchera de mots.
On va revenir sur les articles. À quelle fréquence la DAL Angevine publie ses articles? Et toi, à quelle fréquence toi tu fais des articles?
Alors, la DAL Angevine publie à peu près 2-3 articles par mois. Okay. Mais ça peut varier. Hein. Vraiment, on essaie vraiment de s'accentuer sur la qualité plutôt que la quantité.
Okay.
Et à titre personnel, alors moi, c'est vraiment en fonction de mes disponibilités. Parce qu'avec les études, c'est vrai que parfois, les emplois du temps sont compliqués. Mm-hmm. C'est pas tout le temps les mêmes. Il y a des moments où je commence à 8h, je finis à 20h. Des fois, il faut vraiment trouver les horaires qui cohabitent avec les horaires des événements sportifs. Mais vraiment, on essaie vraiment 2-3 articles par mois. En général, ça se passe comme ça.
D'accord, bah c'est très intéressant. Les gars, est-ce que vous avez d'autres questions à poser?
Ouais, moi j'avais une question. T'as parlé de la cadence d'articles. Est-ce que tu sais combien de personnes sont comme toi, dans le même rôle, font les mêmes missions que toi, à faire des articles pour la dalle?
Alors je crois que ouais, on est environ 5-6 hein, par là, comme ça, qui s'envoient, et c'est vraiment des personnes volontaires et qui vraiment font du bénévolat pour la dalle. Et on essaie vraiment de tourner, que ça soit pas tout le temps les mêmes personnes qui vont aux mêmes événements. Et pour l'instant, ça se passe très très bien.
Ouais, donc c'est cool pour toi, vu que c'est un effectif assez réduit, ça te permet au moins de faire des articles et de faire du terrain. Ouais, parce que si vous étiez 10 ou même 15, là ça aurait été plus compliqué. T'aurais peut-être fait qu'un article tous les 6 mois ou tous les 4 mois. Donc au moins tu peux t'exercer, c'est cool.
Ouais, c'est vraiment bien.
C'est vrai que.
Non, puis à noter que la dalle, enfin, c'est aussi se vendre en terre inconnue, puisque le week-end dernier, c'était un peu étonnant de les voir représenter le sport au Rangé Geek Fest.
Ouais, d'ailleurs, oui, je voulais revenir peut-être. Alors, ça, après, Simon, si t'as pas la réponse, tu le dis, c'est pas grave, y a pas de souci. Au niveau des actus sur lesquelles la dalle s'est impliquée, voilà, des activités, notamment Gilles Kickfest ou d'autres, je crois qu'il y a eu un événement aussi ce week-end à laquelle la dalle a participé. Comment ça se passe par rapport à ça? Quelle activité y a eu?
Ah bah pas, il y a eu plusieurs événements sportifs, des sortes de meetings, on peut appeler ça comme ça, où la dalle essaye au maximum de se montrer présente et d'y participer. Puis ça donne aussi une bonne image aussi pour l'asso, et ça peut que faire grandir l'association.
Très bien, bah merci beaucoup. Merci à toi donc d'être passé dans Génération Sport. Donc on imagine évidemment que t'es impatient pour la L3 et donc ce partenariat avec Résonance.
Mais pour ça, faut avoir les deux premières années.
Par contre, faut quand même travailler.
Elles sont pas données.
C'est ça. Du coup, voilà, merci beaucoup à toi d'être venu avec nous pour parler un peu de l'aspect rédactionnel de la dalle, parce que voilà, la dalle aussi c'est un site internet avec des articles.
Ça fait partie du milieu du sport. Donc.
C'est très intéressant. Est-ce qu'on passerait pas à une deuxième pause musicale, Max?
Tu es prêt? Puisque tu me mets le couteau sous la gorge et que tu me supplies, oui, on va y aller, écoute.
T'étais déjà prêt, je le sais.
Ouais, oui, tu rigoles ou quoi. On va tout de suite s'écouter Damso avec Humain et on se retrouve juste après pour l'actualité nationale et internationale dans Génération Sport.
Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. se celle de mes cordes vocales. Quand on meurt, on ne fait pas appel. La vie a ses failles. Facture, courrier et rappel pour ça faire du sale. Ils ne se veulent pas du bien, l'humain se fait du mal. Pour être ensemble devant nous vivre séparément. Je crois que dans l'ensemble c'est plus facile quand on se ment. Y'a des gens comme moi qui ne savent plus trop ce qu'ils sont. Qui se posent la question, mais qui suis-je vraiment quand je ne suis plus vraiment. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être.
De retour dans Génération Sport pour la suite et fin de votre émission sportive de Radio G. On est ensemble donc pour le gros quart d'heure qui nous reste. On va parler donc de l'actu internationale, l'actu sportive. On va commencer par le tennis, si vous voulez bien, messieurs, avec une actu toute fraîche. Hein, ça vient de se faire, je crois, même aujourd'hui. Voilà, c'était le début du tournoi de Monte Carlo, donc le Masters 1000. Et c'est la fin du parcours des Français.
Merci à tous pour cette émission Génération Sport.
C'était générique.
C'était très très rapide donc pour les Français. Donc les 5 Français qui ont été engagés dans le tableau masculin ont donc été tous sortis sans exception. Et c'est une première d'ailleurs depuis 45 ans. Donc
comme quoi.
Allez, le Français peut
les
encore
années passent, les décennies passent, mais on bat toujours des records.
Par contre, on peut être fier. On a fait aussi bien qu'un ex numéro 1.
C'est vrai. Ah bah oui, puisque Novak Djokovic a été sorti. Alors lui, il a pas, je sais pas si on peut dire qu'il a fait mieux. Il a fait un match, une défaite, certes, mais il était au deuxième tour, sans avoir joué le premier, mais en tout cas, il était au deuxième tour. Bref. Donc c'est une défaite assez frustrante hein, pour les Français qui revenait un peu mieux par rapport à cette année dernière qui a été catastrophique. Mais surtout, il s'est passé quelque chose la semaine dernière, c'est
grosse actu.
Ouais, grosse annonce puisque Joe Wilfried Tsonga a annoncé que après Roland Garros, il allait mettre un terme à sa carrière et c'est clairement une légende du tennis français qui quitte le circuit et voilà, c'est ça fait tout à tous les fans de tennis ou en tout cas qui suivent un peu de loin le tennis, ça fait un petit pincement au cœur. Max, tu disais c'était le deuxième meilleur palmarès français.
Ouais, derrière Yannick Noah.
Donc c'est quand même pas rien.
Donc oui c'est quand même un très grand nom du tennis français qui s'en va. Il me semble que son meilleur classement c'est cinquième.
Cinquième ATP. En 2012.
Il doit faire deux demi-finales de l'Open d'Australie, un quart de Roland, quelque chose comme ça.
Il a pas fait une demi de Roland. Je crois qu'il a fait une demi de Roland.
Mais non c'est un très grand nom. Voilà, il aurait pu avoir peut-être une carrière un peu plus belle, même si je crois il a 18 titres en tout.
Ouais, non,
mais même si voilà il a une très grosse carrière. Donc oui, tu l'as dit, il a annoncé en tout cas sa retraite à la suite de Roland Garros. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tous nos Français ont perdu dès le début. Ils préparent Roland Garros, ils veulent être bons. Bon, personne n'y croit, mais
oui, parce que du coup, c'est comment préparer en jouant qu'un seul match.
Juste se reposer.
Tu
voilà.
vas jouer à Madrid.
Ouais, c'est ça. Il reste à Madrid. Il doit y avoir Rome aussi.
Mais vous allez voir qu'ils vont faire des résultats catastrophiques pour les prochains Masters. Et à Roland-Garros, eh ben ça va être tout aussi catastrophique. À noter que en double aussi, on n'a pas été très très bon, puisque la paire légendaire hein, de Langevin Nicolas Mahut et de Pierre Hugerbert sont tombés aujourd'hui en huitième de finale face à Alexander Zverev et au Brésilien Melo. Donc pas du tout en réussite les Français.
Non. Bon bah écoute, ils se reprendront plus tard et pourquoi pas à Paris, Porte d'Auteuil. On verra ça donc dans les prochaines semaines. Mais effectivement, gros départ. Par une grosse retraite pour Joe Wilfried Tsonga, et ça a vraiment laissé un gros vide dans le tennis français.
Et on espère qu'il va au moins remporter un match pendant ce Roland Garros pour célébrer avec le public
et puis surtout là ces derniers temps il avait été beaucoup impacté par les blessures surtout hein, plus
c'est entre autres pour ça qu'il décide de quitter le monde professionnel et en tout cas ouais j'espère au moins une bonne victoire pour lui à Roland Garros pour pouvoir célébrer comme il se doit avec le public parisien.
Par contre, en tant que voisin Manso, s'il sait pas quoi faire cet été, les studios sont ouverts.
Oui, carrément. C'est vrai, voilà. Une heure de route, le monde.
C'est une heure, voilà.
Joe Wilfried, je pense que t'as entendu notre message. On t'attend.
L'invitation est passée. Avant de passer sur le foot, petit mot de Formule 1, puisque c'était le troisième Grand Prix de la saison, si je dis pas de bêtises.
Ouais, troisième.
Et c'est Charles Leclerc, donc le monégasque, encore une fois Monaco, qui s'est imposé pour la deuxième fois de la saison, donc un petit 2 sur 3 pour Charles Leclerc, qui confirme, Cédric, son statut d'espoir qui s'apprête à faire une très grosse saison, quoi.
Alors, en tout cas, la Ferrari, ouais, sur trois courses, a su se mettre en avant. Il y a quand même du répondant, puisque les Red Bull ont été présents. Pérez finit deuxième, Verstappen, souci mécanique, donc abandon. Mm-hmm. Mais il était présent sur les essais. Mercedes, il y a une voiture sur deux qui marche. Alors, est-ce que c'est réellement un problème de voiture ou de comportement? Je pense qu'on va pouvoir très vite juger la situation. Et puis, si on doit faire un résumé, c'est voilà, le Grand Prix d'Australie, pas exceptionnel. Hein, on a eu deux safety cars. Petite polémique sur l'introduction des safety cars. On a mis les virtual safety cars un peu trop longtemps, mon goût. Mm-hmm. Quand on n'arrive pas à dégager une voiture qui est dans un bac à gravier, ou si tu rentres dedans pour en sortir, c'est galère quand t'es tout seul. Donc, si t'es lancé derrière un safety car, ça va, mais là, même si tu tournes au ralenti, c'était dangereux. Enfin, il y a encore des choses à revoir. Il y a, sous ce régime de safety car, on aurait pu avoir un accident assez important dans la ligne droite des stands. Mm-hmm. Donc, des petites choses à revoir pour au niveau du règlement, c'est en cours. Après, prochain Grand Prix, ça va être en Italie. On va revenir sur des circuits un peu plus classiques, plus connus. Donc on va voir si l'écart entre, en tout cas, les Red Bull et Ferrari va s'accentuer. Et puis Ferrari sera sûrement impérial sur ces terres.
Toi, en off, Simon, tu nous disais que ça t'intéressait assez la Formule 1. Comment toi, tu la vois cette saison?
Je vois surtout que Ferrari est vraiment un des favoris cette saison. Hein, on voit surtout Charles Leclerc qui se montre vraiment très bon sur les trois premiers Grands Prix. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est Mercedes, pour l'instant, qui est un peu à la traîne en championnat. Il y a du répondant avec Red Bull au niveau de Ferrari, mais c'est vrai que Mercedes me choque un peu. Ils sont un peu à la traîne.
Heureusement que Rousseff est là. Ouais.
Ouais, que ce soit en qualif ou même en Grand Prix, c'est assez étonnant de la part de Mercedes.
Avant de partir sur le football, et je vais te laisser la parole, Max, petit point sur l'EAB qui mène actuellement à la pause 49-46, donc une première mi-temps assez prolifique, et on imagine que les supporters angevins sont enjoués.
Et donc, comme tu l'as dit, Alex, pardon, on va parler football. On va d'abord revenir sur les résultats de ce week-end en Ligue 1, cette 31e journée qui a été très prolifique. Victoire, comme on en a parlé en début d'émission, de Lorient, 6-2 face à Saint-Etienne. Il y a eu un autre très gros score ce week-end, c'est la victoire parisienne 6-1 face à Clermont. Rennes a battu Reims 3-2 et conforte sa troisième place au classement. Bordeaux se donne un petit peu d'air avec cette victoire 3-1 face à Metz. Lille et Angers, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont quittés 2-2 partout. Monaco a battu 3-2. Brest et Nantes se sont quittés sur un partout, tout comme Strasbourg et Lyon. Nice a perdu gros, défaite des Niçois 3-0 face à Lens. Et puis une des bonnes opérations du week-end, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille 2-0 face à Montpellier. Prolifique, donc 38 buts, c'est ça, sur une journée. C'est un record depuis la saison 2002-2003, si je ne me trompe pas. Donc ça fait 20 ans qu'on n'avait pas mis plus de 38 buts dans une seule journée. Donc journée très très prolifique en termes de buts, et on espère que la prochaine journée le sera tout autant. Il y a quand même quelques beaux matchs. Rennes recevra Monaco, et puis il y a quelques derbies quand même dans cette journée. Lille recevra Lens, Nantes recevra Angers, et puis il y aura un très gros match, un classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc on espère avoir des beaux buts et surtout des beaux matchs. En termes de classement, le PSG est toujours premier. L'Olympique de Marseille a conforté sa seconde place avec 59 points. Rennes est derrière avec 3 points de retard, et puis dans la zone de relégation, Metz est dernier premier, Bordeaux est 19e avec 3 points d'avance sur Metz, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, Saint-Etienne 18e avec un tout petit point d'avance sur nos amis bordelais.
Ouais. Ligue des champions.
Ligue des champions maintenant, puisque dès ce soir en fait dans 7 minutes, hein, le Real Madrid reçoit Chelsea dans le cadre donc des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich reçoit également Villarreal. Il y avait une grosse sensation au match aller puisque c'était les Espagnols de Villarreal qui avaient remporté le match face au Bayern, victoire 1-0 des Espagnols. Et puis de l'autre côté, le Real, équipe espagnole, avait également remporté son match 3-1 face à Chelsea, avec notamment un triplé de Karim Benzema. Avant que tu évoques peut-être les compos, Alex, on va parler des matchs de demain, puisque demain il y aura également des quarts de finale retour de cette Ligue des Champions. Je suis désolé pour nos amis parisiens, ils ne sont pas là. L'Atlético Madrid par contre recevra Manchester City. Les Mancuniens s'étaient imposés 1-0 au match aller. Et puis enfin Liverpool recevra Benfica. Les Anglais l'avaient emporté 3-1 au match aller.
Au niveau des compositions d'équipe, c'est du classique pour le Real Madrid qui va devoir faire sans la présence de Militao en défense. Donc Courtois dans les buts, Carvajal, Fernandez, Alaba, Mendy en défense. Un milieu classique évidemment, Casemiro, Modric et Kroos. Et l'attaque avec Valverde qui devrait évoluer sur un côté. Et puis avec évidemment Benzema et Vinicius devant. Du côté de Chelsea, c'est un petit peu plus offensif que d'habitude. En tout cas avec une défense à 4 cette fois. Reece James est sur le couloir droit, Alonso sur le couloir gauche. Une charnière Silva, Rudiger, Mendy est bien dans les buts. Il y aura aussi un milieu à 3, donc Kanté, Kovacic et Loftus-Cheek. Et l'attaque qui a des allures de Mannschaft avec donc Werner et Havertz qui sont tous deux donc dans ce trio d'attaque, également complété par Mason Mount. Et au niveau de l'autre match entre le Bayern Munich et Villarreal, il y a beaucoup de Français sur la pelouse, hein, on se croirait dans un match de Ligue 1. Du côté du Bayern Munich, Pavard, Upamecano et Hernandez, donc tous en défense centrale. Et puis on a également Coman qui sera sur le côté droit en piston. Et puis du côté de Villarreal, il y a également deux Français au milieu de terrain avec Étienne Capoue et Francis Coquelin. Voilà pour les compositions de ces équipes. Simon, toi qui es un fan de foot, quelle équipe avant de partir sur les pronos des matchs, quelle équipe tu supportes toi d'habitude?
Alors moi j'aime beaucoup Liverpool. Je supporte le Barça aussi depuis tout petit. Bon, malheureusement c'est compliqué cette saison en Ligue des Champions.
Ça va mieux en ce moment.
Ça va beaucoup mieux.
Ouais, en Ligue des Champions non, mais ça va mieux.
En Ligue des Champions on a été éliminé, mais on espère une bonne fin de saison pour le Barça. Après sur ces quarts de finale retour, donc je miserai plus sur une victoire de Chelsea à Bernabeu, pourquoi pas.
Ok.
Pour espérer peut-être une qualification des Blues. Après, je pense que le Bayern va rouler sur Villarreal comme ils l'ont fait face à Salzbourg. Après, peut-être une petite surprise de Villarreal. On sait qu'ils ont créé une énorme sensation face à la Juve en 8e retour. Après, pourquoi pas, on verra.
Max, toi, quel est ton sentiment par rapport à ces deux matchs?
Je pense que le Real va au moins se qualifier. Je pense qu'ils vont aussi gagner, mais je pense qu'ils vont au moins se qualifier. Au vu du match aller,
combien de buts de Benzema? Ça c'est la vraie question.
Ouais, sur les deux derniers matchs, il en met 6.
Ouais, c'est ça.
Et à la fin de la soirée, on en aura mis 12.
Voilà, au moins.
Non, mais au moins un but. Allez, un but de Benzema, ouais, pour une victoire 2-1 du Real. Ça me paraît pas mal. Et puis de l'autre côté, ouais, je pense comme Simon que le Bayern va complètement dérouler contre Villarreal, même si Villarreal fait une super campagne de Ligue des Champions, honnêtement.
Moi, je les vois créer un petit exploit. Hein.
Ah ouais.
Parce que le match aller, en tout cas, j'ai vu le résumé, le Bayern est inexistant. Ils sont même d'ailleurs inquiétants en défense.
C'est vrai.
Et Villarreal avait la balle et a des joueurs de ballon. Et honnêtement, ils ont l'avantage de la victoire. Donc, ça aussi, c'est à mettre à leur crédit. C'est franchement, pour moi, ils sont supérieurs à l'équipe qui avait battu Bayern juste avant. C'était Salzbourg, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Et pour moi, le Villarreal peut le faire. Après, je dis pas qu'ils vont le faire, mais je pense que on pourrait être surpris ce soir.
Après, le Bayern joue à domicile.
C'est forcément un élément à pas négliger, effectivement.
Et certainement un élément qui a énormément compté aussi à l'aller pour Villarreal.
Mm-hmm. L'émission va bientôt toucher à sa fin puisqu'il est 20h57, bientôt 58. On vous remercie d'avoir écouté donc Génération Sport. On a parlé donc tout le sport angevin et il s'est passé de très belles choses ce week-end. Merci encore Simon d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Pour parler de la dalle angevine. On retrouvera sûrement la dalle angevine avec Théo ou un autre invité donc le mois prochain, pardon. La semaine prochaine, ce sera l'UFAB avec la croate Iva Zlonjak.
On aura peut-être la coupe à la maison.
Et peut-être après, ce sera dans deux semaines hein, pour l'EAB qui on recevra donc Akimji Williams et Ewan Smoke. Peut-être je dis une bêtise, mais ça doit être ça. On vous laisse avec le générique et puis on vous laisse en compagnie de Calibre 58. Baby, just how you